Ok. Vous connaissez le prophète Élie ? C'est bien. Donc vous lisez votre Bible. Donc je ne vais pas vous raconter toute son histoire. C'est un grand prophète qui a eu un temps de faiblesse devant une femme aussi, Jézabel. Vous pourrez voir son histoire dans 1 Roi 18. Alors, Élie vivait du temps du roi Akab, qui était le roi d'Israël, un roi pas très bien, idolâtre, marié à Jézabel, qui a fait tuer tous les prophètes de l'Éternel et qui n'a gardé que les prophètes de Baal et d'Astarté. Alors à cette époque, Élie avait annoncé une grande famine de 3 ans sur tout le pays. D'ailleurs, alors que le peuple meurt de faim, Akab est juste préoccupé pour aller chercher de la nourriture pour ses chevaux. Donc au bout de ces 3 ans, Dieu dit à Élie d'aller trouver Akab pour lui dire que la pluie allait revenir. Donc Élie demande à Akab de rassembler les 450 prophètes de Baal sur le mont Carmel et puis de construire un autel. Et puis il dit, voilà, si votre Dieu arrive à faire descendre le feu sur cet autel, c'est qu'il est Dieu. Sinon, c'est qu'ils ne sont pas Dieu. Donc, vous connaissez l'histoire, j'espère, en tout cas vous irez la lire. Bien sûr, les prophètes d'Astarté n'arrivent pas à faire venir le feu sur leur autel, et Élie, lui, réussit. Après ça, il fait lui aussi tuer tous les prophètes de Baal. Donc, après cet événement, Élie dit à Akab, « Dépêche-toi de rentrer chez toi, parce que la pluie arrive. » Et puis, il va prier sur le mont Carmel, et il se met à genoux, il prie, et par 7 fois, il prie jusqu'à ce qu'un petit nuage arrive. Comme quoi, il faut persévérer. Hein. 7 fois, il a prié. Alors, le vent se lève, le ciel devient noir, la pluie commence à tomber, alors Élie dit à Akab, « Dépêche-toi de prendre ton char et de partir. » Donc, Akab monte sur son char, le ciel devient noir, etc. Et puis, Akab s'en va, il s'en va vers Jézréel, qui est à 30 km de là. Et il est dit que la main de l'Éternel est sur Élie, il met sa ceinture et il court devant le char d'Akab jusqu'à Jézréel, donc 30 km en courant devant les chevaux. Ça m'a fait penser au verset « Si tu cours avec des hommes à pied et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu te mesurer à des chevaux ?» Alors, la question, de quoi je vais vous parler ce matin? Est-ce que vous avez une idée? Faites des propositions. Non? Non? Comment? La course? Non? Non? Bon, je pensais que vous alliez me proposer autre chose, mais tant pis. Comment? Oui, non, pas du tout. Enfin, il y a peut-être de ça là-dedans, mais ce n'est pas ça. Donc, je ne vais pas vous parler ni d'Élie, ni d'Akab, ni de Jézabel, ni de la famine, ni de la pluie. Je vais vous parler des ceintures. Alors, vous allez me dire, ce n'est pas très spirituel, peut-être. Mais si. Aujourd'hui, on porte des vêtements qui sont adaptés pour le travail, pour le sport, pour se marier, pour aller danser, pour... Enfin voilà, on a chacun une ceinture en général, pour tenir son pantalon. Quand il n'y a pas de ceinture, il y a un élastique à l'intérieur. En tout cas, on a des vêtements qui sont, je dirais, pas comme à cette époque. D'ailleurs, on a des vêtements qui sont quelquefois bien moulés, quoi, bien, qui nous tiennent bien au corps. Tandis qu'à l'époque de la Bible, on avait des robes qui descendaient jusqu'en bas, ou des tuniques. C'était pas très pratique pour travailler, ni pour courir, c'est pour ça qu'Élie a mis sa ceinture, parce que du coup, ça, voilà, ça aide. Et donc souvent, pour travailler, à cette époque-là, d'ailleurs du temps des disciples, on relevait la robe et on la coincée dans la ceinture pour pouvoir travailler plus facilement. Donc la ceinture était un élément important dans les vêtements. Donc elle a différentes fonctions, mais surtout elle signifie quelque chose sur le plan spirituel. Alors on va voir ça. Donc c'est un signe d'onction du sacrificateur. Okay. Donc je vous lis le Lévitique 16:4. Il mettra la ceinture, on parle du sacrificateur, il mettra la tunique sacrée de lin et il portera sur son corps des caleçons de lin. Il mettra une ceinture de lin et se couvrira la tête d'une tiare de lin. Ce sont les vêtements sacrés dont il s'habillera après avoir lavé son corps dans l'eau. Alors c'était tout un processus, hein, il fallait le sacrificateur avant d'entrer dans le temple. Donc c'était tout un processus pour le sacrificateur qui devait enlever ses vêtements avant d'entrer dans le temple, se laver, le bain purificateur, et puis se mettre tous ces vêtements-là. Dans Exode 29:5, tu prendras les vêtements, tu revêtiras à Aaron de la tunique, de la robe, de l'éphod et du pectoral, et tu serreras sur lui avec la ceinture de l'éphod. C'était des vêtements sacrés. Et selon Exode 28:39, la ceinture était l'œuvre d'un brodeur. Tu feras la tunique de fin lin, tu feras une tiare de fin lin et tu feras une ceinture brodée. Tu revêtiras ton frère Aaron et ses fils de ses ornements, tu leur conféreras l'onction pour les investir de leur charge et les consacrer à mon service comme prêtre. Donc la ceinture faisait partie intégrante du vêtement d'onction. Le sacrificateur se préparait pour entrer dans le lieu saint, pour brûler les parfums, en l'honneur de l'Éternel, faire monter des parfums d'adoration. Daniel et Jean ont une vision de Jésus très similaire. Il portait les vêtements du souverain sacrificateur, ce qu'il est bien sûr. Donc je lis le texte de Daniel. « J'ai levé les yeux et j'ai vu un homme habillé de lin. Il avait autour de la taille une ceinture en or d'uphaze. Son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair. Ses yeux étaient pareils à des flammes de feu. Ses bras et ses pieds ressemblaient à du bronze poli, et le son de sa voix était pareil au bruit d'une grande foule. » Et Jean dans Apocalypse, « Et au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. » Ces deux versions se complètent, ce sont ces deux visions d'ailleurs qui m'ont interpellée au départ. Il y en a d'autres, Ézéchiel aussi a une vision de Jésus complètement différente, mais voilà, ce serait trop long de dire tous les textes. Donc la ceinture d'onction pouvait se porter à la taille ou un peu plus haut sur la poitrine. Et dans ces textes qu'on vient de lire, dans Daniel et Apocalypse, Jésus porte l'éphod du sacrificateur. L'éphod, c'était vraiment la robe du sacrificateur, avec une ceinture d'or qui parle aussi de sa royauté. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'entrer dans ces visions. Si ces visions sont écrites dans la Bible, c'est parce que c'est pour nous permettre aussi de visualiser ce qui se passe là-haut, dans le ciel. Et quand on avait des veillées dans le sanctuaire, il y a quelques années, on faisait cet exercice d'être dans le silence, dans l'adoration, et de visualiser ces visions. Vous pouvez laisser chez vous dans un moment d'adoration. Et donc il se passe entre ce que Daniel raconte et ce que Jean raconte aussi, il se passe 6 siècles. Donc ça fait quand même pas mal de temps. Et Daniel et Jean voient Jésus toujours avec sa ceinture. Il ne l'a pas enlevée. Il est toujours en action. La parole dit qu'il ne sommeille ni ne dort. Alors la parole dit aussi que Jésus est assis à la droite de Dieu. Je le crois, il est assis sur le trône royal, mais il se tient aussi debout. Rappelez-vous, Étienne, le martyr, il a vu Jésus debout, à la droite de Dieu. Et j'ai l'impression que Jésus est plus souvent debout qu'assis quand il voit tous les enfants, tous ces enfants qui souffrent de la persécution. Donc ça, c'était le premier passage, signe d'onction de sacrificateur. Le deuxième signe, c'est un signe d'onction royale. Alors, je parle d'onction royale car les rois étaient oints, versés de l'huile sur leur front. Saül, David ont été oints par Samuel. Et donc, la ceinture était aussi un élément d'onction aussi pour les rois. On lit dans le psaume 45, si vous lisez ce psaume, c'est un psaume aussi qui est une prophétie messianique, qui parle du mariage du roi avec la reine, bien sûr, avec l'épouse, qui est aussi considérée par l'Église. Donc au verset 3, il est dit « Mets ton épée à la ceinture, vaillant guerrier, ton éclat et ta magnificence. » Dans Ésaïe 45, il est dit « Voici ce que dit le Seigneur à l'homme qui a reçu son onction, à Cyrus, que j'ai saisi par la main droite pour terrasser devant lui des nations, pour détacher la ceinture des rois et pour ouvrir devant lui les deux battants et que les portes des villes ne soient plus fermées. » Au verset 5, il s'adresse toujours à Cyrus. « Moi, je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre, il n'y a point de Dieu si ce n'est moi. Je t'ai saint, je t'ai doté de force, équipé pour le combat. » Et tu ne me connaissais pas, il dit ça à Cyrus. Cyrus était donc un roi païen qui a conquis beaucoup de royaumes. Mais Dieu l'a choisi. J'aime beaucoup d'ailleurs lire ce qu'on parle de lui dans la parole de Dieu. Il dit de lui qu'il l'a oint pour détacher la ceinture des rois, c'est-à-dire enlever l'autorité des rois. Il l'a aussi appelé pour servir sa cause. C'est lui qui a envoyé Zorobabel et Josué pour rebâtir le temple à Jérusalem. Donc Dieu choisit des hommes et des femmes alors qu'ils ne le connaissent pas. Il y a un autre passage qui parle d'Éliakim. Ça signifie, Éliakim, ça signifie celui que Dieu établit. Éliakim était en charge du palais royal, mais le paragraphe d'où est sorti ce verset a une portée messianique. Il parle d'un homme rejeté par Dieu, qu'on peut considérer comme Satan, et son pouvoir sera donné à Éliakim, celui que Dieu établit, Jésus. « Je le revêtirai, dit-il par rapport à cet homme rejeté, par rapport à Éliakim, je le revêtirai de ta tunique, je le ceindrai de ta ceinture et je lui remettrai ton pouvoir public. » Politique, et il sera un père pour les habitants de Jérusalem et le royaume de Juda. Dans ces versets, on voit que la ceinture donc est un signe d'autorité pour les rois, qui peut être enlevé par Dieu. Donc la ceinture que Jésus porte est aussi un signe de sa royauté. Le troisième signe ou élément d'envoi ou prêt au départ. Le premier signe d'envoi se trouve dans Exode 12. Dieu institue le premier repas de Pâques et donne les directives à son peuple qui doit se préparer à quitter l'Égypte. Donc dans Exode 12, 11, « Voici comment vous le mangerez, une ceinture à vos reins, ou vos reins saints selon les versions, vos sandales aux pieds et votre bâton à la main. » Vous le mangerez à la hâte, c'est la Pâque du Seigneur. Donc la ceinture est un élément, dans ce cas, de la tenue de voyage et de la marche. Dieu ordonne à Jérémie d'adresser un message au peuple rebelle. Quant à toi, tu passeras une ceinture à tes reins, tu te lèveras et tu leur diras tout ce que moi, je t'ordonnerai. Ne sois pas terrifié par eux, de peur que je ne te terrifie moi-même. Dieu envoie Jérémie pour annoncer la parole de l'Éternel. Il doit se tenir debout. Et dans ce cas, la ceinture est considérée aussi comme une marque d'autorité dans ce que Jérémie va annoncer. Et il n'y a pas que dans le Premier Testament qu'on parle de ceinture. Et là, c'est Jésus qui parle dans Luc 12, 35. Tenez-vous prêt la ceinture au rein et les lampes allumées. Soyez comme des serviteurs qui attendent le retour de leur maître. Pierre aussi, qui est en prison, il voit un ange qui lui apparaît. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et attache tes sandales. Il le fit. L'ange lui dit, mets ton vêtement, ton manteau et suis-moi. Donc, c'est un signe d'envoi, de départ. Et il faut être prêt, une ceinture au rein, et aller avec son autorité. Le quatrième signe, c'est un élément du combat. Je vous cite 1 Samuel 25, 13. « Alors David dit à ses hommes, « Que chacun de vous mette son épée à la ceinture. » Ils mirent chacun son épée à la ceinture. David aussi met son épée à la ceinture. Et environ 400 hommes partirent à l'attaque derrière lui. Donc il fallait bien une ceinture pour attacher son épée, hein, sinon, embêtant. C'est comme ça, il faut mettre une ceinture, hein, sinon on ne peut pas l'accrocher, ce machin-là. Dans le livre de Néhémie, aussi, le peuple est revenu pour reconstruire les murailles de Jérusalem, mais les habitants qui ont été amenés là par les rois, Nabucodonosor, etc., et qui ne sont pas juifs, ne sont pas très contents. Alors ils sont obligés de se munir, de se prémunir. Alors il est dit que les bâtisseurs avaient chacun son épée à la ceinture, et ils bâtissaient ainsi. Celui qui sonnait la trompette se tenait près de moi, dit Néhémie. Certains travaillaient donc d'une main et tenaient l'épée de l'autre. Pas très pratique, hein. Donc la ceinture servait vraiment à resserrer le vêtement qui était ample pour pratiquer pour le combat ou travailler. Alors Aaron avait une ceinture de lin brodée. Jean-Baptiste et Élie avaient une ceinture de cuir. Jésus a une ceinture d'or. Selon l'usage habituel, c'était plutôt une ceinture en lin ou en tissu, qu'on nouait, ou pour les soldats, plutôt en cuir. Bon, il y a beaucoup de ceintures là, hein, mais ils ont tous des boucles, mais à cette époque-là, il n'y avait pas de boucles. Alors il y a toutes sortes de ceintures, là. Ceinture militaire, ceinture en cuir, ceinture un petit peu avec brillant, une ceinture blanche peut-être pour les mariés. Il y a des ceintures pour toutes les occasions. Donc je résume, la ceinture d'onction ou d'adoration de sacrificateur, elle nous concerne, puisque nous sommes des sacrificateurs. La ceinture d'onction royale, puisque nous sommes rois aussi, selon Apocalypse. La ceinture qui nous envoie et celle qui nous sert pour le combat. Alors, est-ce que vous croyez que nous sommes tous concernés par ces ceintures? Est-ce que vous vous en servez? Les deux premières sont résumés dans le texte d'Apocalypse 1:6, il a fait de nous un peuple de rois et de sacrificateurs. Bernard nous l'a rappelé dimanche d'ailleurs, au cours de la scène, nous sommes fils et filles de rois et nous avons reçu l'onction du Saint-Esprit. Et nous avons un service dans l'adoration. Jean 1:20 dit, « Vous, au contraire, vous avez reçu le Saint-Esprit, dont celui qui est saint vous a oint. » Et vous connaissez tous la vérité. Donc nous sommes loin du Saint-Esprit. Pour le signe d'envoi ou de départ, je reprends le texte de tout à l'heure. Tenez-vous prêt la ceinture au rein et les lampes allumées. Soyez comme des serviteurs qui attendent le retour de leur maître. Donc nous sommes tous concernés par cette ceinture. Donc est-ce que nous nous servons de nos ceintures? Presque à chaque fois qu'il est, dans les textes que je vous ai lus, presque à chaque fois qu'il est question de ceinture, c'est pour faire quelque chose, c'est pas pour rester endormi. D'ailleurs, vous pouvez voir que Pierre, il devait dormir, et ça devait dû se coucher, et puis il avait enlevé sa ceinture. Donc la ceinture, on ne la mettait pas pour dormir. On la met pour se lever, pour être prêt. Donc je redis, Aaron mettait son éphod et sa ceinture pour aller brûler le parfum. Élie met sa ceinture et court devant le char d'Akab. Dieu dit à Jérémie, mets ta ceinture et va. Et Jésus nous dit aujourd'hui, tenez-vous prêt la ceinture au rein. Alors que représente cette ceinture pour nous? Bien sûr, on ne va pas superposer les ceintures. La vérité, machin, pas mal. La ceinture que nous devons porter doit avoir tous ses qualificatifs. Il est dit dans Ésaïe 11:5, et ça parle de Jésus, « La justice sera comme une ceinture autour de sa taille et la fidélité comme une ceinture sur ses hanches. » Il est question de Jésus dans ce texte, mais nous devons ressembler à Jésus. Hein ? Vous êtes d'accord avec moi ? Donc nous aussi, nous devons porter la ceinture de la justice et de la vérité et de la fidélité. D'ailleurs, si vous connaissez l'organisme du SEL, qui s'occupe du parrainage pour enfants, mais aussi de, à chaque fois qu'il y a des catastrophes dans le monde, ils participent à envoyer de l'aide. Leur thème de cette année, c'est la justice. Le mot justice se dit tzedaka. Et il y a dans ce mot plusieurs notions. Et je vous donne ce que j'ai pris d'un commentaire concernant la justice. Qu'est-ce que c'est que la justice ? Si je veux être juste, je dois pratiquer la miséricorde. Justice et miséricorde. Rigueur et compassion. Quelquefois, il faut qu'on soit un petit peu rigoureux, mais avec la compassion. Jugement et pardon. Il nous arrive de devoir juger une action, mais il faut aussi être dans le pardon. Exigence et compréhension. Il faut être exigeant dans, peut-être dans la parole, etc., dans plein de choses, mais il y a aussi la compréhension. J'ai trouvé ça très intéressant et très riche comme notion. Est-ce que je suis capable d'exercer toutes ces notions ? Je dois avouer que des fois ça m'arrive hein, de manquer de miséricorde, de compassion, de pardon, de compréhension. Ça ne vous arrive pas, vous, non ? Mais la ceinture représente aussi la vérité et la force. Quelquefois, on assène des vérités bibliques à nos frères et sœurs qui peuvent friser le légalisme. J'en ai souffert quand j'étais jeune, alors je sais de quoi je parle avec mes parents. Donc, il nous faut vraiment avoir la miséricorde, la compassion, le pardon et la compréhension. Exercer ça pour quand on s'adresse à nos frères et sœurs. La ceinture de la vérité nous concerne d'abord. Je dois être vrai. Est-ce que je suis toujours vrai ? La ceinture de la vérité de la parole, la vérité de la parole doit s'accompagner de grâce, comme il est dit plus haut. Alors, quand je pense à cette ceinture qu'on doit porter, je l'imagine brodée avec un fil d'or pour nous rappeler que nous sommes sacrificateurs et fils de roi, fils et filles de roi. Un fil rouge pour la justice, par exemple. Un fil bleu pour la vérité. Un fil vert pour la force. Alors ce cindre signifie donc se préparer à agir ou à partir avec vérité, justice, fidélité et force. C'est se préparer à une action qui requiert toute notre énergie. Pierre, il a suivi l'ange sans trop savoir où est-ce qu'il allait. Hein. Ce qui lui arrivait d'ailleurs, il pensait rêver d'ailleurs. Éphésiens 6 nous dit revêtez-vous, revêtez-vous. Il n'est pas dit je vais vous revêtir, il est dit revêtez-vous. Donc nous sommes donc appelés tous à manifester et vivre ces différentes facettes, chacune à son importance. Jésus faisait ce qu'il voyait faire au Père, il parlait, j'aime bien ce chant qui dit tout ça, que je vais faire comme toi, que je vais parler comme toi, que je vais aller comme toi. Donc Jésus faisait tout ce qu'il voyait faire au Père. Et Jésus allait au-devant des gens. Alors nous sommes appelés à imiter Jésus. Peut-être que vous dites, bon ben non, moi je peux pas, c'est bon pour mon voisin, ma voisine. C'est trop compliqué, c'est trop... Mais Jésus veut t'équiper. Et il a de bons outils pour le servir. On a juste à faire le choix de mettre la ceinture et de se tenir disponible. Et quand on met sa ceinture, ça veut dire qu'on est donc, comme je disais tout à l'heure, ça veut dire qu'on est debout. On n'est pas couché. Dans les visions de Daniel et Jean, on voit Jésus debout, toujours avec sa ceinture. Il ne l'enlève pas, il est toujours actif. À plus forte raison, ne devons-nous pas l'être aussi ? Prière, évangélisation, témoignage. Il y a les scouts. Qu'est-ce qui a été scout ici ? Il y en a qui ont été scouts ? Non ? La devise des scouts, c'est « toujours prêt ». Toujours prêt. J'ai trouvé un texte dans Ésaïe 5, 27 qui dit « Nul n'est fatigué, nul ne chancelle de lassitude, personne ne sommeille ni ne dort, aucun n'a la ceinture de ses reins détachée, ni la courroie de ses souliers rompue. » Ah, je répète, parce que je crois que je ne l'ai pas mis celui-là. Nul n'est fatigué. Pourtant, moi, je le suis des fois. Nul ne chancelle de lassitude. Oh, Seigneur, j'en ai marre. Personne ne sommeille ni ne dort. Aucun n'a la ceinture de ses reins détachée, ni la courroie de ses souliers rompue. Quand j'entends les souliers, la courroie des souliers, je me dis que dans la Bible, on prend la ceinture, mais il y a d'autres objets sur lesquels on pourrait aussi parler, comme la courroie des souliers. Alors le thème de cette année, c'est « Suis-moi ». Et j'ai bien aimé parce que dans le Connexion, Israël a écrit, avez-vous lu le Connexion ? « Me voici ». Alors je pourrais dire, moi, je pourrais dire « Je suis prêt ». Suis-moi, me voici, je suis prêt. J'ai ma ceinture, je suis paré, envoie-moi. J'ai entendu quelqu'un dire, c'était pas quelqu'un de chrétien d'ailleurs, là où il y a une volonté, il y a un chemin. Ça veut dire que si on veut, on peut. Le chemin s'ouvre devant nous. Alors on manque souvent de volonté, soit par crainte, soit parce qu'on ne se sent pas capable, ou trop jeune, ou trop vieux, ou etc. On n'a pas les dons. Ou on dit « Oh, ben, le Seigneur ne me l'a pas dit ». Ben si, justement, il te le dit aujourd'hui. Le Seigneur a eu besoin d'un âne. Alors il a d'autant plus besoin de moi. J'ai dit « moi », je n'ai pas dit « vous ». Dans nos marches de prière à la roseraie, on a l'occasion donc d'aller bénir les gens, de prier avec eux. Et croyez-moi, normalement, moi, ce n'est pas mon truc. Hein. Je ne suis pas très hardie. Et pourtant, quelle joie de faire ce qu'ils nous demandent et de prier avec les gens. Alors je dis en passant comme ça, ça manque de jeûne dans nos marches de prière. Alors mettez vos ceintures et venez nous rejoindre la prochaine fois. C'est Justine, ce prophète qu'on a eu il y a quelque temps, là, qui nous disait de rejoindre les gens dans la rue. Et un autre pasteur disait, allez dans les bars, parlez de Jésus, même si on vous dit, ah, chrétien, ça ne va pas dans les bars. Mais si, vous pouvez aller dans les bars pour parler de Jésus. Suis-moi, dit Jésus. Me voici, je suis prêt. Je suis paré avec ma ceinture. Envoie-moi. On l'a chanté tout à l'heure, que nous puissions être une église en marche, une église debout, une église prête pour le travail, pour ce à quoi le Seigneur nous appelle, prête pour le retour de Jésus, hein, comme les vierges sages, prête, prêt. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêtes? Vous êtes d'accord avec moi que nous devons ressembler à Jésus?
Oui. Amen.
Amen. Donc je vous propose une adaptation d'Ésaïe 11, versets 2 à 5, concernant Jésus. Je le lis une fois, et si vous êtes d'accord, nous pourrons le déclarer ensemble. L'Esprit du Seigneur repose sur moi. Il me donne la sagesse et le pouvoir de bien juger. Il m'aide à prendre des décisions et me rend courageux, courageuse. Il me fait connaître le Seigneur et m'apprend à le respecter. Alors, je prendrai plaisir à obéir au Seigneur. Je ne jugerai pas selon les apparences. Je ne déciderai pas d'après ce que j'entends dire. Je jugerai les pauvres avec justice. Je serai juste pour ceux qui dans le pays sont sans défense. La justice et la fidélité, ainsi que la vérité et la force, seront pour moi comme la ceinture qu'on porte sans cesse autour de la taille. Si vous êtes d'accord avec moi, ben vous pouvez vous lever, puis on va le dire ensemble. Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Hein. L'Esprit du Seigneur repose sur moi. Il me donne la sagesse et le pouvoir de bien juger. Il m'aide à prendre des décisions et me rend courageux. Il me fait connaître le Seigneur et m'apprend à le respecter. Alors je prendrai plaisir à obéir au Seigneur. Je ne jugerai pas selon les apparences, je ne déciderai pas d'après ce que j'entends dire. Je jugerai les pauvres avec justice. Je serai juste pour ceux qui dans le pays sont sans défense. La justice et la fidélité, ainsi que la vérité et la force, seront pour moi comme la ceinture qu'on porte sans cesse autour de la taille. Seigneur, merci parce que tu entends nos déclarations. Et Seigneur, ce ne sont pas des paroles en l'air que nous voulons prononcer, Seigneur. Nous voulons vraiment être prêts et à aller. Seigneur, il y a tellement de choses qui se passent dans le monde. Seigneur, nous devons être prêts dans tous les domaines, dans toutes les circonstances. Nous voulons être, Seigneur, debout pour dire qui tu es. Nous voulons être debout pour parler de toi. Nous voulons être debout pour prier pour le monde et pour être efficaces, Seigneur, pour le royaume, pour que ton royaume vienne, Seigneur. Nous voulons être participants de ton royaume. Seigneur, merci de bénir chacun et chacune. Amen.